Vous êtes sur RCJ et j'ai le plaisir de recevoir Daniel Siboni, psychanalyste et écrivain. Daniel Siboni, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de votre nouvel ouvrage, Fantasmes d'artiste, aux éditions Odile Jacob. Alors, c'est la poursuite d'un travail entamé il y a plusieurs années sur l'art, sur la création en général. On se souvient de votre livre intitulé La création, c'était aux éditions du Seuil. Une première question assez globale, justement. En quoi l'artiste, ou en quoi la création, mais en quoi l'artiste est un sujet ou un objet d'observation pertinent ou intéressant pour vous?
Ah, mais c'est plus qu'un... C'est pas un objet d'observation, c'est que réellement, je partage son épreuve de mettre à jour et de mettre en œuvre son fantasme. Et moi, je suis, en ce sens, je me sens artiste, au sens où j'essaye de décoder des fantasmes, d'aider des gens à les traverser, à les conquérir, parce que quand on traverse un fantasme, on l'a, on n'est pas dedans. Et l'artiste, c'est le seul, l'unique individu qui, en quelque sorte, expulse son fantasme en le réalisant.
Vous dites que le fantasme des artistes est de montrer des réalités dans lesquelles ils prétendent que nous baignons à notre insu.
Bien sûr.
C'est une sorte de phare, de
bien sûr, parce qu'ils mettent au jour, ils mettent en lumière des pseudo-réalités, des néo-réalités, des réalités qui sont en rupture avec la réalité commune et qui pourtant aident à mieux voir la réalité commune. Et peut-être que le propre de l'art contemporain, c'est d'apporter cette rupture en permanence avec les idéaux, avec la réalité, avec des traditions, etc. Et de forcer un peu à la fois l'artiste et le spectateur à intégrer cette rupture. Cette rupture avec soi, avec la réalité commune. Et en intégrant cette rupture, il rejoint ce que j'appelle sa faille existentielle. Et en ça, l'art contemporain est pour moi une expérience fantastique de mise en jeu de l'existence, si vous voulez. Une expérience qui de non-conformité à des modèles, des idéaux, etc., en rupture avec l'art classique et même l'art moderne. L'art moderne, même Picasso, il nous donne sa vision du monde. Il ne nous donne pas, si vous voulez, son effondrement sur tel ou tel moment de l'existence que nous partageons.
Alors, effondrement, je pense aux ruines d'Anselme Kiefer qui ouvre votre ouvrage, puisque, précisons-le, Fantasme d'artiste est une sorte de compilation de portraits, de galeries de portraits, de critiques d'expositions, mais aussi donc de textes plus génériques, plus théoriques sur cette question précise. Et vous ouvrez donc cet ouvrage avec le grand cycle, on s'en souvient, Monumenta, qui avait animé le Grand Palais ces dernières années. On avait vu donc Anselme Kiefer, Richard Serra, Boltanski, Arish Kapoor et Buren se prêter à l'exercice d'installation sous la nef du Grand Palais. On va peut-être pas rentrer dans le détail, on n'a jamais trop le temps, vous connaissez le peu de minutes qu'on peut vous accorder, mais qu'est-ce que vous retenez de ces expériences? Est-ce que malgré ces différences, ces artistes ont un fantasme commun que vous retrouvez au Grand Palais?
De toute façon, vous savez, le début du livre, c'est que tout artiste a le fantasme de refaire le monde, et comme c'est difficile, il se fait un monde de ce qu'il a fait, de ce qu'il a créé. Et autour de ce fantasme, qui est de nous redonner le monde tel qu'il est, voilà, dans l'état où il est, et je crois qu'on touche à quelque chose qui va plus loin, c'est que l'enjeu de tous les artistes contemporains, c'est de toucher à la création, et de nous faire toucher à la création. En tant que la création, entendez-le même au sens biblique, ou au sens générique, au sens simple, la création, le monde tel qu'il ne cesse de se créer et de se recréer. Et apparemment, il y a un besoin, un désir, une demande de vivre, revivre un contact avec la création à travers cette idée de nouveauté et de commencement. Je trouve que les œuvres contemporaines, elles ont, à part leur côté unique, en même temps que ouvert sur beaucoup d'interprétations, elles vous donnent un choc de commencement.
Vous dites aussi qu'on ne parle plus d'esthétique désormais avec le.
Pour moi, l'esthétique, au sens de conformité à des canons de beauté, etc., a été balayée. Mais la question de la beauté reste toujours ouverte. La question de la beauté comme événement, comme épreuve. Pour moi, la beauté, c'est une somatisation de l'amour. Je l'ai écrit plusieurs fois dans Création. Ça veut dire que quand vous êtes stressé, vous somatisez, vous avez un bouton. Et quand vous êtes visité par l'amour, notamment l'amour de l'être, de la vie, vous somatisez, vous avez de la beauté. Et cet événement peut arriver avec une œuvre qu'on peut qualifier de moche. Donc il n'y a pas un culte de la mocheté, de la laideur, de l'horrible, etc. Parce que au-delà de cette apparence, il y a l'événement qui est que de l'amour a pris corps, un moment d'amour de l'être a pris corps dans cette œuvre bizarre. J'ai vu à New York, et vous savez, vous voyez au MoMA des récipients de chrome là qui contiennent des sécrétions humaines. Vous voyez, avec juste des petits tickets, salive, sperme, sueur, etc. On sait qu'ils sont vides, mais rien que cet étalage de moments du corps, ça donne cette idée de renouvellement, de reprise de contact avec le corps.
Alors il y a également, je le disais, une sorte de véritable galerie de portraits que vous dressez à l'issue d'expositions. Bien souvent, on peut croiser dans vos pages Louise Bourgeois, Gerhard Richter, Garouste, Andy Warhol. Il y a également Balthus. Alors Balthus, on ne sait jamais trop dans quelle case le placer, dernier grand maître classique ou premier maître contemporain. Et là, vous parlez clairement d'un fétichisme émouvant. En quelques mots, Daniel Simoni, quel est son fantasme, en tout cas, comment le met-il à l'œuvre?
Son fétichisme, à lui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas tellement un artiste contemporain, mais il est plutôt dans un classicisme du moderne, ou une modernité classique, mais qui est obsédé par ce fétiche qui est de surprendre la féminité de la jeune fille au moment où elle va éclore. Lui aussi est pris par le fantasme du commencement. Et justement de ce commencement qu'il est en train de surprendre, de cueillir, de violer, d'arracher en douceur. Et quelque part, comme certains artistes, vous le remarquerez, font toujours la même chose. C'est-à-dire, dans son cas, ça a été vraiment très prégnant. Et sa femme, sa compagne japonaise, peut témoigner du défilé des adolescents,
des modèles,
dont il cueillait cette fleur. Et Rothko, par exemple, c'est tout à fait différent. C'est l'obsession de la lumière, mais qui a été et toujours la même. Il est resté capturé dans le même commencement.
Mais c'est l'évolution peut-être la plus spectaculaire, le cas de Marc Rothko, qui passe du figuratif à l'abstraction.
Est capturé dans cet éclat de lumière jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Et il l'éteint et il meurt. Et donc chacun a sa dramaturgie avec le commencement.
Une dernière question, Daniel Simoni, avec dans les deux minutes qui nous restent, elle mériterait peut-être plus de temps à être développée, mais on peut se demander aussi en vous lisant, puisqu'il y a beaucoup, et comme souvent dans vos ouvrages, des références à la Bible, en tout cas au texte saint de l'Ancien Testament, l'interdit de la représentation dans le judaïsme, est-ce que ça ne fait pas de la religion juive une religion qui entrave ou qui empêche la création?
Alors justement, je donne la réponse dans quelques pages du livre, c'est très complexe parce qu'en réalité, je pense que l'interdit de la représentation tel qu'il est formulé, il est magnifiquement cohérent avec l'art contemporain. Parce que ça veut dire, ne faites pas des objets idéaux, ne faites pas des images dont vous pourriez croire qu'elles contiennent l'être, c'est-à-dire qu'elles soient fétiches. Or, cette explosion de l'idéal et de l'identité absolue, belle, etc., est typique de l'art contemporain. Cela dit, votre question est pertinente. Pourquoi ça a fonctionné comme ça? Pourquoi cet interdit a fonctionné comme un empêchement de faire de l'art? C'est là qu'il faut prendre en compte le fait que c'était des communautés fermées par l'hostilité ambiante, et dans lesquelles les rabbins, les guides spirituels surenchérissaient, c'est-à-dire surtout pas encore moins d'images parce que vous risquez d'eux, etc. Et c'est quand il y a eu l'émancipation, quand ça s'est ouvert, que les artistes n'ont plus éprouvé le danger d'être des parias dans leur communauté. Et ils se sont éclatés. Le nombre d'artistes juifs que vous avez, religieux ou non religieux, et qui expérimentent dans tous les champs. Donc ce truc, cet interdit de la représentation, il fonctionne comme l'interdit, comme le culte de l'absence d'idole, si vous voulez.
Et ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui, parce qu'on est toujours pris par le temps, mais on pourrait encore parler notamment de nombreux sujets. Il y a de très belles pages sur le silence également qui peut s'instaurer entre l'artiste et le spectateur. C'est une conversation et des découvertes à poursuivre en lisant Fantasme d'artiste que vous signez Daniel Siboni aux éditions Daniel Jacob. Merci. Odile Jacob.
Merci.
Merci à vous.
Merci.
Il est énormément simple.